Chapitre 20. La cité unifiée a essuyé de nombreuses crises, constitutionnelles ou sociales. Mais à chaque fois, elle s'est relevée, plus forte, plus sereine. Je suis donc certain qu'elle se relèvera de la crise des ombres, plus unie que jamais, et qu'elle connaîtra une nouvelle ère de prospérité et de paix. John Jack Fantagio, troisième adjoint au maire de New York. Cité unifiée de Nilopa. De graves émeutes ont secoué la cité unifiée. On les a oubliées parce que nos dirigeants ont tendance à occulter les événements passés qui les dérangent. Mais Nilopa s'est retrouvée à plusieurs reprises au bord du gouffre. Aussi incroyable que cela puisse paraître aujourd'hui, la cité unifiée a souffert de la faim. 2 années de suite, les serres agricoles ont été prises d'assaut par les populations hors site. Les citadins ont alors manqué de céréales, de légumes, de lait, d'œufs, de viande, et ils ont réagi de la façon dont réagissent tous les groupes humains dans les mêmes circonstances. Ils libèrent leur colère et leur frayeur, descendent dans la rue, pillent les magasins, les habitations, ne laissant, comme un tsunami, derrière eux que des ruines. Le conseil des maires a renforcé la sécurité autour des serres agricoles et le problème ne s'est jamais représenté. Mais les populations ont trouvé d'autres motifs de déverser leur rage dans les rues. Ganesh s'acharna sur le dernier adversaire à terre. Les trois autres s'étaient enfuis, saoulés de coups, incapables de contenir l'ouragan qui leur était tombé dessus, abandonnant couteaux et bâtons hérissés de clous. La vitesse de déplacement et la précision des frappes du fouineur les avaient rapidement mis en déroute. Seul était resté celui que son pantalon avait empêché de courir.
« Arrête, Ganesh! Arrête! Il a son compte! Tu vas le tuer! Les autres sont partis, putain, arrête !»
En partie rhabillé, Ava maintenait d'une main son chemisier au bouton arraché. Ganesh donna un dernier coup de pied dans les côtes de l'homme à terre qui protégeait de ses bras son visage tuméfié.
« On fout le camp » souffla-t-il.
Les sirènes hurlantes des véhicules de police déchiraient la rumeur de l'émeute qui s'éloignait peu à peu.
« On dirait que les grubs ont perdu notre trace. »
Ava acheva de rajuster ses vêtements.
« On fonce à la station sous-marine ?»«
C'est là qu'ils risquent de nous attendre, » objecta Ganesh.
Il serait sans doute plus judicieux de passer la nuit ici et d'y aller seulement demain matin.
Rester toute une nuit dans ce bordel?
Les grubs ne te connaissent pas. Si tu veux rentrer à Paris ce soir, libre à toi.
Moi, je préfère attendre un peu, le temps que les choses se tassent.
Peut-être qu'avec les émeutes, les grubs ne surveilleront pas la gare.
Je préfère ne pas prendre de risques.
Ava secoua la tête.
Je te comprends pas, Ganesh. Un coup, tu insistes pour te fourrer dans la gueule du loup, un coup, tu le fuis comme la peste. Un coup, tu veux absolument sauver Théo, un coup, tu le laisses tomber comme une vieille chaussette. Un coup, tu sembles plus doux qu'un agneau, un coup, t'es plus féroce qu'un fauve. Soit t'es schizophrène, soit tu me caches des trucs.
Les yeux de Ganesh s'attardèrent sur l'homme à terre qui remuait et gémissait doucement.
Qu'est-ce que tu décides ? Demanda-t-il.
Merci de tes réponses et de ta confiance. Je rentre. J'en ai plus que ma claque de New York.
Je t'accompagne jusqu'à la station sous-marine. J'aviserai sur place. Peut-être que je pourrais prendre le tube avec toi. Moi non plus, j'ai pas envie de rester dans cette ville.
Si tu veux passer inaperçu, t'as qu'à t'acheter de nouvelles fringues et un chapeau ou une perruque.
Ganesh observa l'entrée de la rue déserte. Les nuages déferlaient en horde au-dessus de Manhattan.
Bonne idée, il me faudrait aussi du fond de teint pour éclaircir ma peau. J'ai pas le temps de prendre un correcteur génétique.
Ben quoi ?
Se rebiffa Ava. C'est pas si con comme idée.
Les grubs connaissent sans doute la fréquence de ma biopuce. J'aurai plus de chance avec un brouilleur.
Quoique.
Non, rien, allons-y.
Il se mit en marche. Elle lui emboîta le pas après un petit moment d'hésitation.
On t'a déjà dit que t'étais chiant, Ganesh?
Dans Madison Avenue, ils prirent sur la gauche en direction de la station sous-marine. Des véhicules à damiers noirs et blancs filèrent devant eux, lancés à toute allure. Ils marchaient par endroits sur un tapis d'éclats de verre. Des colonnes de fumée noire s'élevaient au-dessus des immeubles et se dispersaient dans le couvercle bas des nuages.
« J'ai oublié de te remercier, » reprit Ava. « Tu m'as scotché tout à l'heure. Je te croyais pas aussi fort en combat de rue. »
« Je ne le savais pas non plus. »
Ganesh croisa le regard désespéré d'un vieil homme accoudé au balcon d'une fenêtre aux vitres brisées.
« Nous avons peut-être trouvé une faille, monsieur. »« Jules Richebourg présentait les traits défaits et le teint brouillé de celui qui vient de passer une nuit blanche. Alaric Brognier n'avait pas beaucoup dormi non plus. Il avait tenté de joindre les membres de la fraternité, mais le gigantesque bog informatique interdisait tout échange virtuel, et il était impossible de les réunir tous dans un même endroit en un temps aussi court. Comme à son habitude, Richebourg s'assit sans y être invité sur l'un des fauteuils disposés devant son bureau.
« J'espère pour nous tous que vous me proposez une vraie solution », répondit le maire d'un ton las. « La population parisienne est excédée. Plusieurs émeutes ont éclaté cette nuit, et nous avons de plus en plus de mal à les maîtriser. De plus, avec la panne des réseaux, nous ne pouvons pas joindre l'état-major.
J'ai envoyé des émissaires. J'ai toujours pas reçu de réponse.
La police et les fouineurs sont exténués. »
L'article 72A permet la concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul maire dans le cas où la sécurité de la cité unifiée serait menacée, commença Richebourg.
Vous m'apprenez rien pour l'instant, coupa Brognier avec un geste impatient.
Il faut nous attarder sur cette notion de menace.
L'adjoint gardait son calme malgré sa fatigue et l'humeur exécrable de son interlocuteur.
L'article reste assez vague à ce sujet. Un mot a retenu notre attention, un mot, qui ne figure pas dans le corps de l'article proprement dit, mais dans l'un des renvois écrits en lettres minuscules qu'on peut consulter dans une annexe de la Constitution. Le législateur y précise la notion de menace.
Jules Richebourg sortit une feuille de papier imprimée de la poche intérieure de sa veste, la déplia sur le bureau et posa l'index sur le passage précité. Alaric Brognier se pencha pour lire les lignes rédigées en corps minuscules.
« Menace extrinsèque mettant en péril la souveraineté de la cité, » murmura-t-il.
« Extrinsèque ! » releva l'adjoint.
« Ce qui signifie extérieur. Vous me prenez parfois pour un con, Jules. »
L'adjoint s'en défendit d'un petit sourire.
« Nous considérons que les ombres ne sont pas une menace extrinsèque, » poursuivit-il d'un ton neutre. « Nous pouvons donc nous opposer à l'application de l'article 72A en arguant que les ombres sont un phénomène circonscrit à l'intérieur des limites de la CU. Par conséquent, une affaire criminelle.
Nous en sommes à près de 80 000 morts, argumenta le maire. Difficile de parler d'une simple affaire criminelle.
Le nombre de morts évoque une guerre, c'est juste. Mais ne nous laissons pas abuser par les chiffres. Puisqu'il n'y a ni déclaration ni revendication, puisque l'enquête suit son cours, nous sommes bel et bien en présence de criminels, et non d'un ennemi extérieur clairement identifié. De ce point de vue, l'application de l'article 72A ne se justifie pas.
Brognier réfléchit pendant quelques minutes. Des bruits étouffés s'échouaient dans le silence de l'immense pièce. Les pillages s'étaient poursuivis toute la nuit. Les policiers, assistés des fouineurs, avaient rencontré les pires difficultés à rétablir l'ordre. Si l'armée n'intervenait pas rapidement, les prochaines émeutes risquaient de tout emporter sur leur passage. Les soldats devraient abandonner quelque temps la surveillance des serres agricoles, mais il valait mieux suspendre momentanément l'approvisionnement de la cité plutôt que d'assister sans réagir à son démantèlement.
Ça pourrait être intéressant sur le plan strictement légal, déclara le maire. Mais nos adversaires auront beau jeu de démontrer que nous faisons face à une situation extraordinaire qui justifie une mesure d'exception. Ils plaideront l'urgence et la meilleure efficacité d'un pouvoir centralisé.
Nous pouvons les contrer en demandant le regroupement des forces d'investigation des trois cités sous un commandement unique, avança Jules Richebourg. Une affaire strictement militaire.
Alaric Brognier joignit ses mains à hauteur de ses yeux. Ce qui rendrait inutile l'application du 72A. Je sais pas si ça suffira, mais ça vaut sans doute le coup d'être tenté. Tout dépendra de la réaction de l'armée. Si elle est du côté de nos adversaires, nous n'aurons que très peu de chances d'empêcher Paris de devenir un simple quartier de New York.
Jules Richebourg se leva et s'étira. Les effets des accélérateurs 2N s'étant estompés, il ressentait le besoin urgent de prendre un peu de repos.
Gardons confiance, monsieur. Les militaires ont de tout temps garanti l'équilibre des pouvoirs.
Le maire accompagna son adjoint du regard jusqu'à ce qu'il entr'ouvre la porte du bureau.
« Sans doute, » murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Mais qui peut savoir ce qui se trame exactement dans la tête d'un militaire ?» La station du tube souterrain était bondée. Malgré l'activité inlassable des robots nettoyeurs, elle portait encore les traces des émeutes de la nuit. Écrans souples arrachés des murs, vitrines défoncées, morceaux de verre éparpillés, poubelles renversées. Ganesh et Ava avaient découvert le même spectacle de désolation dans la gare sous-marine de Londres. Les trois cités de Nilopa avaient été le théâtre d'émeutes violentes.
Tu avais tort de t'en faire, Ganesh. Il n'y avait pas la queue d'un grub à la station de New York.
Ava n'avait pas dormi dans le tube sous-marin, encore choquée par son agression dans les rues de New York. Ganesh non plus, perturbé par les effets de la prise de contrôle de sa biopuce sur son esprit. Il n'avait pas parlé, se contentant de contempler le somptueux spectacle des fonds océaniques.
Ils ont sûrement d'autres chats à fouetter, concéda Ganesh. T'es un trop petit poisson pour eux.
Le sourire d'Ava ne masquait ni sa fatigue ni sa tristesse.
J'y vais.
Tu ne viens pas au central?
J'ai besoin de dormir un peu.
Ganesh aurait volontiers passé quelques instants supplémentaires avec elle.
J'ai pas trop envie d'y mettre les pieds non plus, mais le chef de groupe risque de me remonter les bretelles si je n'y vais pas.
Faut parfois tenir compte de la hiérarchie dans le corps des fouineurs.
Théo n'en avait rien à foutre de la hiérarchie, répliqua Ava.
C'est vrai. Et c'est ce qui lui a valu ses emmerdes.
J'aimerais bien savoir où il est passé celui-là.
Moi aussi. C'est l'un des rares que j'appréciais au central.
Merci pour moi.
Ganesh tenta de ranger son dépit sous les éclats de son rire. Ava leva sur lui un regard indéchiffrable. Un passant pressé la bouscula. Elle ne parut pas le remarquer.
Toi, c'est différent.
Comment ça?
Elle se détourna et s'engagea dans le couloir de sa correspondance.
Cette fois, j'y vais.
Toi non plus, tu ne réponds pas toujours aux questions,
cria Ganesh. Elle continua de marcher.
Comme ça, on est deux,
répondit-elle sans se retourner.
Faut vraiment que je rentre, je tombe de sommeil.
Quand l'ennemi est quantifiable, on peut le combattre. Même s'il est plus nombreux, mieux armé, plus féroce, plus déterminé, on peut le regarder, on peut le mesurer, on peut l'affronter. Quand on distingue la cuirasse de l'ennemi, on peut le frapper là où elle présente des défauts. On conserve une chance, même infime, parce qu'on est fait de la même substance, de la même chair, du même sang. Mais lorsque l'ennemi n'est pas de la même nature que vous, lorsque l'ennemi n'a pas la même forme de pensée que vous, lorsque l'ennemi est tellement différent de vous que vous ne pouvez pas lui assigner une forme précise, alors vous avancez comme un aveugle dans un labyrinthe, incapable de prévoir les coups, marchant inéluctablement vers votre propre mort.
Tout est prêt pour la deuxième phase. Où en êtes-vous des expérimentations sur la dernière génération de biopuces? La voix métallique de son interlocuteur semblait s'insinuer dans les moindres interstices du corps de Caton. Il supposait qu'elle était programmée pour agir sur certaines zones de son cortex. Tout se déroule normalement. Le mode direct contrôle permet à la biopuce de prendre l'initiative et le contrôle total de son porteur. Pas de résistance du cerveau?
Aucune,
à condition que le cerveau soit coopératif, conditionné.
Êtes-vous certain que tous les cerveaux seront coopératifs?
Avec le climat de terreur qui règne sur la cité unifiée, la population acceptera sans aucune difficulté les nouvelles biopuces. Nous les présenterons comme le seul recours possible contre les ombres. La voix marqua un temps de silence. Le temps, sans doute, de consulter les statistiques.
Bien. Cette deuxième phase est très importante. Vous veillerez à ce que tous les citadins, absolument tous, soient équipés des nouvelles biopuces.
Je compte les proposer dans quelques jours au nouveau pouvoir.
Pourquoi attendre sa mise en place?
La chaîne de décision s'en trouvera considérablement simplifiée, nous gagnerons un temps précieux.
Il faut arriver à la troisième phase avant que la cité unifiée n'ait conçu une parade.
Caton lâcha un petit rire sarcastique.
Ils ne sont pas prêts de trouver. Il nous suffit d'entretenir leurs petites querelles internes, un jeu d'enfant, tellement ils sont obnubilés par leur quête du pouvoir.
Nouveau temps de silence.
Ne soyez pas trop sûrs de vous. Nous avons déjà constaté que leurs ressources étaient insoupçonnables.
Je les connais, je n'oublie pas d'où je viens. Nilopa et les autres glissent maintenant sur la pente qui donne sur le vide, sur l'oubli.
Que comptez-vous faire de votre cobaye?
Il nous est encore utile. Nous allons bientôt reprogrammer sa biopuce de manière à ce qu'elle n'ait plus besoin de l'autorisation de son cerveau.
Ce n'est pas dangereux pour lui?
Bien sûr que si.
Mais un vieux proverbe dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Nous avons mémorisé cette expression. En revanche, il reste une zone d'ombre vous concernant.
Le comportement humain resterait une énigme, jusqu'à l'extinction de l'espèce, songea Caton. Une aberration biologique que personne n'aurait jamais été en mesure de comprendre.
Si vous voulez parler de mes motivations, je ne suis pas certain de les appréhender moi-même, répondit-il. Disons pour résumer que je suis issu des milieux apocalyptiques et que la logique n'est pas mon fort. Ça n'a aucune importance. Le principal est que nous allions au bout de notre projet.
À combien estimez-vous désormais les chances de réussite?
3 secondes s'écoulèrent avant la réponse.
Nous avons franchi la barre des 70%.
Ardouin, le chef de groupe, s'engouffra comme une furie dans le minuscule bureau de Ganesh.
On peut savoir où tu étais passé, Ganesh?
Ganesh prit le temps de boire une gorgée de thé avant de répondre. La fatigue lui pesait maintenant sur les épaules comme un joug.
Je reviens de New York.
Au regard réprobateur d'Ardouin, il comprit qu'il allait devoir fournir quelques précisions.
Qu'est-ce que tu foutais là-bas?
Je faisais mon boulot de fouineur, je suivais une piste.
Des nouvelles de Théo?
Aucune.
Et d'Ava, la stagiaire?
Elle était avec moi à New York. Elle est maintenant chez elle, elle avait du sommeil à rattraper.
Ganesh devina que le chef de groupe faisait des efforts surhumains pour se contrôler.
Vous ramenez des éléments nouveaux?
La piste ne menait nulle part.
Ardouin s'approcha de lui et se pencha par-dessus son bureau pour le fixer dans les yeux. Sa barbe naissante, les cernes sous ses yeux, le pli amer de sa bouche indiquaient qu'il n'avait pas dormi, lui non plus.
« Tu es encore nouveau dans le métier, Ganesh. Un peu jeune pour prendre des initiatives de ce genre sans m'en avertir, »
déclara-t-il d'une voix calme mais tranchante.
« On en reparlera plus tard. À partir de maintenant, tu ne bouges plus de Paris. » Tous les fouineurs sont consignés, ordre de la direction.
Ganesh finit son thé.
C'est pas en restant les deux pieds dans le même sabot qu'on va résoudre le problème des ombres.
Ardouin évacua son exaspération d'un large mouvement de la main.
La municipalité s'en tape des ombres. Notre nouveau job, c'est d'aider les flics à contenir les émeutes.
Les flics n'y arrivent pas tout seuls?
Dire que ces crétins n'arrêtent pas de se foutre de nous? On garde les susceptibilités dans le fond des poches. On appelle ça resserrer les liens entre les différents corps de la municipalité. La situation est urgente. La cité tout entière est devenue un baril de poudre. Tu as ton taz sur toi?
Je l'ai laissé à l'appartement.
Tu fonces le chercher et tu te rends immédiatement à la mairie. Une fois sur place, tu te mettras à l'entière disposition du préfet de police.
C'est que...
Quoi?
J'ai pas dormi depuis un bon bout de temps et... Ardouin se redressa et d'un geste péremptoire, coupa la parole à son vis-à-vis.
« Rien à foutre. Tu es responsable de tes conneries. Tu as une heure, pas une minute de plus pour te présenter à la mairie. »
Le chef de groupe se dirigea vers la sortie de la pièce, puis se retourna, la main sur la poignée de la porte.
« À propos de Théo, j'ai reçu un truc bizarre. »«
Quoi ?»«
Une séquence vidéo où on le voit faire de drôles de choses. »«
Vous ne voulez pas me dire de quoi il s'agit ?»«
Je te montrerai ça quand les flics t'auront relâché. »«
S'il me relâche un jour. »
Un sombre pressentiment traversa Ganesh.
Dites-moi au moins si c'est grave.
Ardouin marqua un long temps de pause avant de répondre, avec une mine sinistre.
Grave n'est pas le mot. Je dirais plutôt effrayant.
À ceux qui disent que l'humanité est tombée au plus bas, je répondrai qu'insondables sont les enfers dans lesquels elle peut encore se fourvoyer. Texte anonyme gravé sur une pierre du rempart de Tchon. Pays hors site.
Je les ai vus une fois et m'en souviendrai toute ma vie. Ils paraissaient invincibles avec leurs casques et leurs armures. Mes balles n'avaient aucun effet sur eux. Je disposais pourtant d'une bonne arme, achetée plus de 200 tchons chez l'un des meilleurs armuriers de l'agglomération. Avec elle, j'avais tué un grand nombre d'ennemis du clan de la Hulotte, au point que... Élevé au rang de père par notre chef, je siégeais au conseil et disposais d'une vaste maison, dans laquelle pouvaient se loger ma femme, mes 5 enfants, ma mère, ma sœur et ses propres enfants. J'avais aussi abattu quelques gueules noires, ces monstres assoiffés de sang qui faisaient régner la terreur dans les rues de Tchon. Le sentiment de puissance que j'éprouvais alors,
s'est évanoui comme un mirage lorsque je me suis retrouvé face aux cavaliers. Ils avançaient toujours à la même allure, sans se soucier de nos tirs, lâchant des rafales de leurs armes automatiques, incendiant les habitations, semant cadavres, désolation et ruines sur leur passage. J'en ai approché un de près. Son armure grise et brillante ne dévoilait aucune partie de son corps, pas même ses mains, également habillé d'un métal souple d'une solidité à toute épreuve. De son visage, je n'ai vu que ses yeux, blancs, brillants, qui n'exprimaient pas le moindre sentiment, pas la moindre émotion. J'ai vidé mon chargeur sur lui à bout portant. Les balles ont ricoché sur son armure, comme des gouttes d'eau sur une toile cirée. Il n'a pas riposté. Je l'ai cru touché jusqu'à ce que je me rende compte que le chargeur de son pistolet mitrailleur était vide et qu'il n'en avait pas de rechange. Il s'est immobilisé comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. De fait, l'un de ses semblables a surgi de la fumée quelques minutes plus tard pour lui remettre un nouveau chargeur. Je n'ai pas attendu qu'il l'installe. Je me suis enfui et j'ai couru aussi longtemps que possible. Une fois dans la forêt, j'ai pris conscience que j'avais oublié les miens, que je les avais abandonnés dans Tchon. Et harcelé par les remords, je suis revenu sur mes pas. Les colonnes de fumée épaisses et noires qui montaient de l'agglomération ne m'ont pas laissé beaucoup d'espoir de revoir ma femme et mes enfants vivants. Après avoir vendu ses trois pots, Naya était rentrée à l'auberge en compagnie de Yosp. La somme de 350 tchons récoltés leur suffirait sans doute à s'acheter le nécessaire pour descendre vers le sud. Elle avait le temps de faire un tour à la fosse des lépreux avant la tombée de la nuit. Yosp refusa de l'accompagner.
« Ils vont venir, ceux qui n'ont pas d'odeur. Ils me font peur. »
« Les heures ne te disent toujours rien au sujet de deux lunes ?» Le petit homme secoua la tête d'un air malheureux.
« Bouge pas d'ici, » reprit-elle. « J'en ai pas pour longtemps. »«
Reste avec moi !»
Naya lui posa la main sur le bras. « Il faut que je sache si deux lunes est revenue. » « Je laisse le fric ici. Mon flingue aussi, si tu veux. Tu pourras te défendre si on t'agresse. » Elle posa le pistolet à côté de la petite bourse de cuir qui contenait les pièces de 50 et de 10 tchons. « Tu sais comment il marche ?»«
J'ai vu !»
répondit Yosp. Il pointa l'index sur le cran de sûreté.
« Il faut bouger ça !»
Son index se déplaça pour désigner la détente à l'intérieur du pontet.
« Puis, appuyez sur ça !»«
N'oublie pas non plus de viser, hein ?»
ajouta Naya avec un sourire. Elle n'aimait pas se séparer de son arme, mais elle n'en aurait probablement pas besoin pour effectuer un simple aller-retour jusqu'à la fosse, et il lui fallait rassurer Yosp. « Verrouille la porte après mon départ, et n'ouvre qu'à Kolb, ou à moi, d'accord ?» Il acquiesça d'un mouvement de tête. Elle sortit et attendit d'entendre le verrou intérieur pour traverser la salle à manger et se glisser dehors. Une pluie dense gonflait les rigoles d'égouts qui commençaient à déborder et à répandre leurs déchets dans les rues. La nuit n'allait pas tarder à tomber. Étreinte par un sentiment d'inquiétude, elle accéléra le pas, croisant des silhouettes incertaines, regrettant d'avoir laissé son pistolet à Yosp. La ville semblait s'être peuplée de spectres. Jusqu'à l'extermination du Pégase, le noyau ne lui avait jamais paru aussi dur que Tchon, aussi lugubre. Elle y avait passé une enfance relativement heureuse, si le bonheur signifiait encore quelque chose dans le pays hors-site. Les gouttes de pluie imbibaient ses vêtements. La nostalgie lui imprégnait l'âme. Pressée de partir de Tchon, mais passant de lune, elle fonça en direction de la fosse, glissant par endroits, heurtant des rats noirs qui fuyaient les débordements. Une eau boueuse tapissait le fond de la fosse. Les lépreux s'étaient réfugiés dans leur cavité, où ils ne resteraient pas longtemps au sec. La pluie était probablement l'élément le plus pénible pour eux. Des taches de boue maculaient les vêtements et bandages des rares malades qui ne s'étaient pas encore mis à l'abri. Naya fit rapidement le tour de la fosse sans discerner la silhouette de deux lunes. Son cœur se serra. Elle n'aurait jamais dû se séparer de lui. Elle se promit que, si par chance il revenait, elle s'arrangerait pour rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Elle décida de repartir, mais un cri l'incita à explorer de nouveau la fosse du regard. Elle ne discerna rien d'autre que des silhouettes claires pourchassées par la pluie. L'une d'elles se relevait de la boue et renouait les bandages défaits par sa chute. Son corps, rongé par la maladie, n'avait plus grand-chose d'humain.
Impossible de savoir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Lorsque Naya reprit le chemin de l'auberge, elle se rendit compte que la nuit commençait à se déployer, que les rues s'étaient vidées, que les habitants s'étaient barricadés dans leur logement. Elle se mit à courir, aiguillonnée par une peur soudaine. Elle eut rapidement la sensation de se tromper de chemin, de se perdre dans le labyrinthe, et tenta de s'orienter au faîte du rempart qui dominait les toits luisants. La pénombre faussait les perspectives et les repères. Elle déboucha sur une petite place qu'elle ne reconnaissait pas, écarta les cheveux mouillés collés à ses joues et à ses lèvres, s'appliqua à remettre de l'ordre dans ses pensées affolées. L'air peinait à se frayer un chemin dans sa gorge et ses poumons douloureux. Ils surgirent tout à coup sur la place. Une dizaine d'hommes, entièrement vêtus de noir, visage et mains également barbouillés de noir, armés de piques ou de faux inversés. Le sang de Naya se glaça. Elle chercha une issue, avisa l'entrée d'une ruelle 5 mètres plus loin sur sa droite, s'élança en espérant les prendre de vitesse. À peine s'y soit-elle engagée, qu'elle découvrit un deuxième groupe barrant la largeur de l'artère. Elle voulut rebrousser chemin. Trop tard. Les autres lui coupaient déjà toute retraite. Elle s'était jetée dans le piège. Une peur atroce s'empara d'elle. Elle se remémora les croix dressées au pied du rempart, les corps nus et sanguinolents, les hurlements des suppliciés, les rats noirs agglutinés pour laper les flaques de sang.
« Belle prise !» grogna l'une des gueules noires. « L'osphère sera satisfait. »
Les autres poussèrent des cris et des rires hystériques. Leur cercle se resserra autour d'elle. Les pointes des piques se promenèrent à quelques centimètres de sa gorge et de sa poitrine. Elle voulut appeler au secours. Aucun son ne sortit de sa gorge. De toute façon, crier ne servirait à rien. Aucun habitant de Tchon ne lui viendrait en aide. Son amour pour Delune l'avait perdue. Que deviendrait Yosp sans elle? Elle n'esquissa aucun geste quand une main gantée de noir la saisit par le col.
« Ce soir, tu vas souffrir pour le bon plaisir de l'osphère !»
Il sembla à Naya reconnaître cette voix. Elle se serait raccrochée à n'importe quel espoir pour échapper au terrible sort qui lui était promis.
« Amenez-la à Balbu !» fit une autre voix.
Psalmodiant d'incompréhensibles prières, ils la conduisirent au pied du rempart. Deux autres victimes se tenaient déjà près des trois croix rudimentaires couchées sur les dalles de pierre. Un garçon et une fille aux cheveux blonds cendrés et au teint très pâle. Des jumeaux, probablement, âgés d'une dizaine d'années. Une nuit noire et désespérante descendit en Naya. Ses pires cauchemars s'étaient matérialisés devant elle.
Naya est folle d'être sortie à cette heure-ci, maugréa Kolb. Va falloir que je parte à sa recherche.
Yosp restait prostré dans son coin comme emmuré dans son silence.
Pourquoi elle a laissé son flingue ici, bon Dieu? Vitupéra le trappeur. La règle de base dans une agglomération aussi dangereuse que Tchon est de jamais se séparer de ses armes.
Il glissa 2 cartouches dans son fusil, puis lassa sa cartouchière autour de sa taille. Il était pourtant rentré d'excellente humeur, après avoir vendu pratiquement toutes ses peaux et amassé une belle somme, qui lui permettrait d'attendre tranquillement le retour du printemps. Il avait dîné avec Yosp, rat noir et gruau, le menu commençait à lui peser sur l'estomac, et les autres clients, espérant le retour de Naya. Puis, il lui avait fallu se rendre à l'évidence. Elle ne rentrerait pas. Il lui était arrivé quelque chose. Et la seule chose qui arrivait à l'imprudent errant dans les rues de Tchon, pendant la nuit, était la rencontre avec les gueules noires.
« Tu restes ici, Yosp. Tu fermes derrière moi et tu n'ouvres à personne d'autre que moi, d'accord ?»
Yosp exprima son accord d'un grognement avant de se recroqueviller sur son lit. Une fois dans la rue, Kolb n'eut qu'à se fier au hurlement pour s'orienter. La pluie battante et grondante ne lui facilitait pas la tâche. Mais son oreille exercée discernait les cris déchirants dans le lointain. Et il supposait qu'ils avaient un lien avec les gueules noires. Il pressa l'allure, son fusil pointé devant lui, l'index glissé dans le pontet. Comme avec les grands fauves, sa survie dépendrait entièrement de ses réflexes. Il avait déjà constaté à maintes reprises que la rapidité et l'initiative permettaient de se sortir sans trop de dégâts des situations difficiles. Les rats eux-mêmes avaient fui les rues. Pas plus que les êtres humains, ils n'appréciaient les trombes.
Kolb se demanda pourquoi il se décarcassait de la sorte pour une fille qu'il connaissait à peine. Il ne s'était jusqu'alors jamais encombré de sentiments et s'en était plutôt bien porté. Il éprouvait pour Naya et Delune une tendresse paternelle inattendue, comme si ces deux-là étaient parvenus à attendrir son cuir tanné par le soleil et les ans. Il aurait voulu avoir des enfants comme eux. Les hurlements le conduisirent à une porte du rempart, où se déroulait un rituel sinistre. Des gueules noires avaient dévêtu un garçon et une fille pas encore pubères et entrepris de les clouer sur deux croix. Planqué derrière une cloison de tôle, Kolb chercha Naya des yeux et la découvrit au milieu de gueules noires. Son visage blême contrastait avec les faces noires déployées autour d'elle. Il ne lui avait pas encore retiré ses vêtements. Il lui avait passé une corde autour du cou pour l'empêcher de s'enfuir. Les brusques tensions de la laisse la faisaient, de temps à autre, grimacer. Comment les deux enfants aux cheveux blonds étaient-ils tombés entre les mains de ces cinglés? La seule explication plausible était que les parents les avaient vendus comme des bêtes destinées à l'abattoir. Kolb se concentra sur Naya. Les hurlements des gosses lui vrillaient les nerfs. Il ne pouvait plus rien pour eux. L'expérience lui avait appris qu'il ne fallait jamais courir deux gibiers à la fois. Il devait exploiter l'effet de surprise provoqué par la première détonation, foncer droit sur Naya et l'éloigner aussi rapidement que possible de ses corbeaux de malheur. Il prit une profonde inspiration, avant de s'aventurer hors de son abri et de lever son fusil. Il visa celui qui paraissait commander cette bande de fêlés, un homme grand et maigre, qui se tenait entre les croix et le reste de l'assemblée, et que les autres fixaient d'un air craintif. Il pressa la détente. La détonation éclata comme un coup de tonnerre. Sa cible, touchée à la poitrine, oscilla sur elle-même avant de s'affaisser avec une étrange douceur. Les autres n'eurent pas la réaction escomptée. Au lieu de s'égayer comme une volée de moineaux, ils se ruèrent sur le trappeur en brandissant leurs piques et leurs faux. Kolb tira sa deuxième cartouche et en toucha trois d'un coup. Ils roulèrent sur les dalles mouillées. Les suivants les percutèrent et tombèrent à leur tour, engendrant une grande confusion. Le trappeur essaya d'exploiter le sursis pour recharger son fusil. Il n'eut pas le temps de glisser deux nouvelles cartouches dans le canon. Ils fondirent sur lui avec une vivacité sidérante, sans doute gavés d'une décoction de plantes qui aiguisait les réflexes, inhibait les peurs et anesthésiait la douleur. Une première lame lui arracha son arme des mains. Une deuxième le frappa dans le creux du bras. Il tenta de se défendre, mais succombant rapidement sous le nombre, il se retrouva allongé dans une flaque d'eau, avec deux piques posées sur sa gorge.
« Qui es-tu ? »
lui demanda l'un d'eux. Kolb ne répondit pas.
« Pourquoi as-tu tiré sur Balbu ?»
Le trappeur ne regretta pas d'être intervenu. Il acceptait que sa longue vie, un privilège rare dans le pays hors-site, s'arrête cette nuit. Il se désolait seulement pour Naya.
« Tu vas voir ce qu'il en coûte de s'attaquer aux enfants de l'osphère !»
gronda la gueule noire. Delune s'était éloigné de Tchon davantage qu'il ne l'aurait cru. La quête du Kalao l'avait entraîné dans un paysage à la végétation exubérante. Il avait fini par trouver le précieux arbre près d'un étang à l'eau croupie. L'extraction de l'huile, la cholmogue, lui avait pris du temps. Il lui avait fallu une nuit pour inciser les écorces et remplir les deux outres dont il s'était muni avant son départ. Ce ne serait sans doute pas suffisant pour soigner tous les lépreux de la fosse, mais au moins, il pourrait essayer le remède sur quelques-uns d'entre eux. Et, si le résultat se révélait positif, il organiserait une expédition avec une citerne pour en ramener de plus grandes quantités. Il avait ensuite marché tout le jour, se frayant un passage difficile à coups de serpe au milieu de la végétation. Tracassé par un sentiment d'inquiétude, qui avait Naya pour objet principal, sinon unique. Se sentant triste et démuni lorsqu'il était séparé d'elle, il avait hâte de la retrouver. La pluie battante ne facilitait guère sa progression. Les ruisseaux et les mares débordaient et devenaient autant d'obstacles parfois infranchissables qu'il lui fallait contourner. Il se demandait également s'il marchait dans la bonne direction, l'obscurité et les nuages occultant tous les points de repère. Trempé jusqu'aux os, il s'arrêtait parfois sous un arbre à la frondaison épaisse pour prendre un temps de repos. La pluie offrait l'avantage de maintenir les animaux dangereux dans leur tanière ou dans leur grotte. Il taillait par endroits dans les enchevêtrements de ronces qui dressaient devant lui des murailles presque inextricables. Il aperçut enfin l'ombre sombre et figée du rempart de Tchon du haut d'une colline.
Il s'étonna de ne pas ressentir le moindre tressaillement de joie. Un sentiment d'inquiétude, au contraire, enfla en lui, jusqu'à lui étreindre la gorge et le faire suffoquer. Le prêtre était mort. Les billes de plomb lui avaient transpercé la poitrine et perforé le cœur. Les adeptes de l'osphère n'interrompirent pas pour autant leur rituel, ni même ne s'occupèrent de son cadavre. L'un d'eux prit la place de l'officiant et donna les instructions. Ils dressèrent les deux croix au centre de la place et psalmodièrent leurs prières pour accompagner les cris d'agonie des suppliciés.
« Puissant l'osphère, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite, que viennent les temps obscurs, que s'efface à jamais la lumière du jour qui dévoile l'horreur de l'homme et de la création. Que ta volonté soit faite. Puissant l'osphère, accepte ce sacrifice, témoignage de notre dévotion et de notre fidélité. Que ta volonté soit faite. Moi, Daemon, j'offre au grand l'osphère ces deux sacrifices au nom de la communauté de Tchon. »
Puis les sons graves des tambours retentirent, et les membres de l'assistance se dandinèrent en rythme.
« Bande de tarés !» murmura Kolb.
L'entaille à son cou, ouverte par la pointe d'une pique, s'était remise à saigner. On l'avait attachée près de Naya à un anneau de fer scellé dans la muraille.
« Je croyais qu'un simple coup de feu suffirait à les éloigner. Je me suis bien trompé, »
poursuivit le trappeur à voix basse. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils la vénèrent. Les gouttes qui roulaient sur les joues de Naya étaient uniquement dues à la pluie. Résignée, elle n'avait plus de larmes à verser. Aucune lueur d'espoir ne brillait dans la nuit désespérante. Deux lunes ne viendraient pas.
« Je suis désolé, » ajouta Kolb. « J'aurais voulu faire mieux. »«
C'est moi qui suis désolé. Tu t'es mis dans le sale drap à cause de moi. »
« Oh, moi, j'avais plus beaucoup d'avenir, de toute façon. Et puis quel intérêt d'appartenir à une humanité tombée si bas ?»«
Ils ne sont pas tous comme ça. » Le souvenir de Delune emplit Naya d'une tristesse insondable. Les adeptes de l'osphère cessèrent de psalmodier. Sur un signe de leur nouveau prêtre, on amena Naya devant la troisième croix couchée. Puis, on commença à la dévêtir. Elle ne se débattit pas. Elle avait l'impression que son corps ne lui appartenait plus, que son âme s'était déjà enfuie. Seule façon pour elle, sans doute, de supporter l'agonie des deux enfants et le supplice qui l'attendait. Elle ne ressentait plus de honte, plus de colère. Une fois nue, elle fut allongée sur la croix. On lui écarta les bras, on lui lia les poignets et les chevilles au bois rugueux, puis les deux hommes chargés de la crucifixion se placèrent de chaque côté d'elle et sortir d'énormes clous de boîte en fer.
« Accepte un troisième sacrifice, puissant l'osphère !»
clama le nouveau prêtre. Naya crut de nouveau reconnaître cette voix. Elle gémit lorsqu'une pointe acérée s'enfonça dans la chair de son poignet. Elle vit du coin de l'œil l'homme lever son marteau pour l'abattre sur la tête du clou. Un premier coup de feu retentit, frappant le bourreau de Naya, qui s'effondra sur le dos. Puis un deuxième, fauchant un adepte. Les losphériens réagirent de la même façon que face à Kolb. Ils ne s'égayèrent pas. Ils brandirent leurs piques, leurs bâtons, leurs faux, se tournèrent dans la direction d'où avaient surgi les coups de feu et hurlèrent des imprécations. Cette fois, ce ne fut pas une silhouette qui émergea de la nuit, mais plusieurs, avançant d'un pas mécanique. Puis, tandis que les adorateurs de l'osphère finissaient de se regrouper pour affronter le nouveau danger, un véritable déluge de feu s'abattit sur la place.